La symphonie alpestre de Strauss. Je vous arrête tout de suite. Le Strauss qu'on écoute aujourd'hui, c'est Richard et non Johann. On sera très très loin des valses. Richard le Bavarois et Johann le Viennois n'ont aucun lien de parenté et presque un siècle d'écart. Richard Strauss, donc. Compositeur allemand de la première moitié du XXe siècle, il est surtout connu pour ses poèmes symphoniques et ses opéras. La symphonie alpestre, malgré son nom, est en fait un gigantesque poème symphonique et l'une des œuvres préférées du compositeur lui-même. Il s'agit d'une œuvre à programme très explicite, en 22 épisodes, qui raconte par le menu l'excursion d'une journée en montagne. Derrière l'image un peu naïve d'une musique purement descriptive, c'est une véritable musique dionysiaque qui trouve son origine dans l'influence du philosophe Nietzsche sur Strauss. Influence qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre poème symphonique au titre encore plus explicite, Ainsi parlait Zarathoustra. Mais notre symphonie alpestre, il faut d'abord la prendre pour ce qu'elle est, un gigantesque hymne à la nature. La symphonie a été créée en 1915, après 10 ans de gestation et 100 jours d'orchestration. L'orchestre, justement, est l'un des plus vastes développés par Richard Strauss, avec pas moins de 134 instrumentistes. Et certains ne sont pas banals. Vous pourrez guetter dans le cours de la partition la cloche de troupeau, la machine à vent ou la machine à tonnerre, ces deux derniers étant bien présents dans l'épisode de la tempête, vers 35 minutes de musique. Bref, ça fait du monde. Tout le monde ne peut pas diriger ça dans son garage avec des copains. C'est d'ailleurs l'assurance d'interprétation souvent remarquable. Tout à l'heure, on écoutera Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, rien que ça. Alors, quelle est l'histoire? Eh bien, ça commence avec une nuit, puis un lever de soleil. Il faudra tendre l'oreille au début d'ailleurs, parce que ça démarre tout doucement. Après, débute l'ascension de la montagne, la forêt, puis les prés, les ruisseaux, les chutes d'eau, les pâturages. Suivent alors des sections plus mouvementées, décrivant la rudesse et les dangers de la montagne. Perdu dans les fourrés, le glacier, moment dangereux. Et enfin, c'est le sommet, la vision, le brouillard aussi, une élégie magnifique, un moment serein et lumineux. Après le sommet, forcément on redescend. Musicalement, Strauss inverse et diminue le thème de l'ascension, et ça marque ainsi le début de la descente. Habile ? Puis c'est la tempête et l'orage, somptueux et réaliste. Un pianissimo ouvre le coucher de soleil, puis on retombe dans la nuit qui referme l'œuvre. C'est vraiment ça, une journée en montagne. La nature trouve sa transcription musicale dans l'écriture de Strauss, avec par exemple des chants d'oiseaux dans « Entrer dans la forêt », ou l'utilisation du glockenspiel et des percussions dans « Près des chutes ». Sans parler de l'orage, qui est immédiatement expressif. Mais il ne faut pas réduire la partition à ses descriptions. La symphonie alpestre offre la particularité de satisfaire à la fois l'émotion immédiate de la description pittoresque et une réflexion plus profonde sur la place de l'homme dans le conflit qu'il oppose à la nature. Et donc, pour découvrir cette merveille, nous retrouvons Herbert von Karajan enregistré en 1981.